Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier. Même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. On appelle au dialogue de sourds et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Voilà contre-histoire. Contre-histoire en deux parties, si j'y arrive. On va d'abord traverser l'Atlantique sur les traces de notre hyper-président. On ne l'aurait pas parié, mais si, il est allé à Maripasoula et encore plus fort, au Carbet-Loubert. Parce que Maripasoula, c'est joli à dire et à entendre, à nos oreilles de métro, boulot, dodo. On n'imagine pas où a débarqué notre fier président des riches. Maripasoula, ce n'est pas exactement une destination de Club Med. Au point que le village a déguisé ses maisons avec des paravents de bois pour cacher aux augustes regards la misère dans laquelle on vit à Maripasoula. Une déco à la Ceausescu que les télés n'ont bien sûr pas montrée. Mais on peut se demander qui a eu cette idée saugrenue. Initiative du député En Marche du lieu ou peut-être du maire? Alors que le but de cette réception était justement de montrer la réalité de ce morceau de la France des droits de l'homme, où des milliers de foyers n'ont pas d'eau, où les rues sont de terre battue, où le mot égout reste mystérieux, et la scolarisation un privilège souvent inaccessible, sauf exil. Albert Memmi a caractérisé la pudeur quasi culpabilisé du colonisé. On peut revoir ça dans quelques contre-histoires anciennes. Et il aurait pu, dans sa généralisation, inclure la situation des Guyanais et de bien d'autres ultramarins. Petit détail mystérieux, passé aussi sous silence. Où notre hyper-président a-t-il passé sa folle nuit de Marie Passoula? Aurait-il eu l'occasion de faire une petite révision sémantique de son vocabulaire branché? Car le Sofitel de Marie Passoula, c'est pas encore pour demain. Alors le seul hébergement possible pour les hôtes de passage, c'est au-dessus du café-épicerie quelques chambres habituellement utilisées par des malheureuses que le chômage dépassant là les 80% a spécialisé dans l'accueil des voyageurs fortunés ou simplement généreux. Oui, c'est bien là ce qu'on appelle un bordel. Mais ne dramatisons pas, il est certain que le plus jeune député En Marche, 23 ans, aura ouvert sa porte à ce plus jeune président, avec qui il se sera peut-être découvert des points communs. Ce brillant jeune homme ayant, comme Emmanuel, un parcours quasi météorique. Et puis, soyons honnêtes, la bonne volonté de notre président ne s'est pas arrêtée à Marie Passoula. Il a vu bien pire. Il a vu le Carbet Loubert. Il n'y a sûrement pas dormi, sauf à s'étendre dans un hamac suspendu entre deux piquets sous le toit de feuillage du Carbet, bercé par le chant mélodieux des singes hurleurs, comme font tous les amateurs de week-end en forêt. Non, car ça c'est le propre des Carbets d'oxygénation, de détente, sinon de repos. Et Carbet Loubert n'a pas cette réputation. Il paraît que c'est ce qu'il y a de pire comme résidence en Guyane, et c'est sans doute pour ça que les autorités du lieu n'ont même pas jugé utile de déguiser le site. Il a voulu voir, et il a vu. Il en a eu, comme on dit, pour notre argent. Et ne vous étonnez pas si vous n'avez pas eu d'image du Carbet Loubert. S'il en a été tourné, elles ont dû être effacées. À propos de sous, on se demande pourquoi M. le Président a eu besoin de deux avions pour arriver à l'aéroport Félix Éboué de Cayenne, en direct de Paris. Car ce sont bien deux Airbus présidentiels que les Guyanais ont vu descendre et atterrir sur le tarmac. Bon, d'accord, il n'est pas venu tout seul. Mais enfin, même avec les conjoints et les cartons à chapeau assortis, ça ne remplit pas deux Airbus. Mystère. À part ça, la liste des commissions transmises au président, enfin, commissions sous la Ve République, c'est un bien vilain mot. Disons plutôt carnet de doléances. Sur quoi porte-t-il?
Approchez, 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 mesdames et messieurs, et écoutez sonner ce joli mot que l'on appelle indépendance. Laissez-vous emporter par la consonance du mot liberté. Écoutez-les sonner, car pour sonner, ils sonneront, mais ils resteront des mots. Écoutez sonner le glas de nos indépendants. 50 ans d'incompétence sans autre conséquence que de faire croire aux abrutis que le moment est venu de festoyer d'abord et de réfléchir ensuite. Depuis lors ça continue malgré les déficits. Si les cons savaient voler, ils seraient sur satellite. Ce sont les mêmes qui commémorent, qui battent tous les records dans le bas du classement des indices de développement. Premier à monter au créneau dès qu'il s'agit de réconfort, sans jamais avoir à fournir le moindre effort. Car s'ils pensaient travailler, ils n'auraient pas le culot de fêter quelque chose qui leur a été octroyé. Vous leur voulez l'indépendance, disait le général. Alors ils nous l'ont donné, c'est depuis lors que l'on danse sans pouvoir s'arrêter. En fait quoi? 50 ponts?
Non.
50 routes?
Non.
Ou 50 ports?
50 ans d'indépendance.
Ça alors?
50 canards.
Tu veux dire de dépendance? Et la France? Et qu'on sort?
Oui.
Elle s'en sort?
Oui.
Elle est d'accord?
Elle garantit son assistance.
Arrête ça, qui te l'a dit?
Monsieur Sarkozy.
Silence, il y a Sarkozy qui parle. Il dit dans une de ses déclarations que la France économiquement n'a pas besoin de l'Afrique, avec 2700 filiales sur le continent. Les entreprises françaises s'invitent même dans le politique. Quand le rapace s'attaque, les pigeons fuient la menace. Les Africains sont bien les seuls à se laisser pigeonner, puis à se faire inviter à la table du rapace. T'as entendu parler des fameux comptes d'opération? Paraît que c'est pour maintenir le cours de notre monnaie. Alors on nous amène à exporter toutes nos devises pour qu'ils aient la sympathie de récupérer nos intérêts. Cet argent nous sera reprêté sans doute plus tard. Pour te donner une idée, cela fait 8000 milliards. En sens inverse, c'est de l'aide au développement. Mais ça rappelle étrangement un comportement de dealer, le genre de situation où la victime est le client. En fait quoi? 50 ponts?
Non.
50 routes?
Non.
Ou 50 ports?
50 ans d'indépendance.
Ça alors? Tu veux dire de dépendance? Et la France? Et qu'on sort?
Oui.
Elle s'en sort?
Oui.
Elle est d'accord?
Elle garantit son assistance.
Arrête ça, qui te l'a dit?
Monsieur Sarkozy.
Bois, diamant, uranium, or noir, phosphate, cuivre, transport, télécom, gaz, eau, BTP, produits de pêche et agricole, sous le sol, sur le sol et même au-dessus du sol. En retour, la superpuissance imprime du CFA, celui avec lequel nous fêtons l'indépendance, celui qui nous a permis 50 ans de subsistance après des siècles marqués par des missionnaires dont la mission était le nettoyage des consciences, puis le soutien à nos pantins que nous appelons excellence. Ceux qui tremblent à l'évocation du mot alternance, n'est pas eux, c'est sûr, qui en feraient une histoire si on nous refilait l'apocalypse en suppositoire. En fait quoi? 50 ponts?
Non.
50 routes?
Non.
Ou 50 ports?
50 ans d'indépendance.
Ça alors? Tu veux dire de dépendance? Et la France? Et qu'on sort?
Oui.
Elle s'en sort?
Oui.
Elle est d'accord?
Elle garantit son assistance.
Arrête ça, qui te l'a dit?
Monsieur Sarkozy.
Hommage à tous ceux qui se sont battus pour l'indépendance, la vraie. Un héritage que d'aucuns piétinent et traîne inexorablement jusqu'au panthéon des imbéciles.
Alors, ce carnet de doléances, sur quoi porte-t-il donc ? Y aurait-il des doléances? Ah, ma bonne dame, il n'y a que l'embarras du choix. Pour commencer en douceur, on pourrait parler des normes, en deux mots, ces normes européennes que la France universelle applique rigoureusement sous tous ses cieux, dans un grand souci d'équité. Les bornes anti-incendie, par exemple, c'est très utile. Bien sûr, surtout dans un pays de forêts qui sont de plus le poumon de la planète. Vive les bornes anti-incendie, qui produisent quasi instantanément des mètres cubes d'eau à la moindre flammèche aperçue. Encore faut-il que quelqu'un l'ait aperçue, mais enfin bon. Mais ces bornes, normées C et E, sont aussi anti-gel, ce qui multiplie leur prix par je ne sais combien. Alors que le risque de gel en Guyane n'est pas vraiment le danger principal. Il y a aussi les poteaux électriques. Il y en a tout de même quelques-uns. Ils sont, où ils étaient, importés du Danemark, dont les forêts fournissent, on le sait, les meilleurs poteaux du monde. Mais là, j'ai un petit doute qu'il faut avouer. Il me semble avoir vu à mon dernier voyage quelques poteaux en ciment. Autour de l'aéroport, justement. Auraient-ils été tous changés? Je ne sais. Merci de me mettre à jour si vous avez des tuyaux plus frais. Mais comme l'a montré au président un journaliste, sortant de sa poche une tranche d'akupa sous vide, ce délicieux poisson guyanais, dont il ne faut pourtant pas abuser, car il est maintenant pollué au moins au mercure, si ce n'est au cyanure. L'akupa, donc, est fumé, au bois de hêtre métropolitain. Normalisation oblige. À votre avis, est-ce que l'akupa vole en Airbus vers la métropole pour se faire enfumer, ou lui envoie-t-on du bois de hêtre pour appliquer la recette normalisée? Là encore, je bogue. Aidez-moi si vous pouvez. Mais en tout cas, la fumigation est de hêtre, bien sûr, métro. Monsieur le Président a répondu à cette évocation en parlant des habitudes culinaires. Mouais. Pas des habitudes locales, en tout cas. Et le journaliste a transformé la formule en « contrainte normée ». Et comme il a eu raison. Les contraintes étant bien sûr métropolitaines, et soyons clairs, colonialistes. Le carburant, lui aussi, vient de métropole. Ou au moins des Antilles, qui ne sont pourtant pas la porte tout à fait à côté, comme on l'imagine parfois. Voyez la carte. Alors que le Venezuela est noyé sous son pétrole et qu'on en produit même au Suriname à quelques kilomètres à pied. Alors, si le respect des normes entraîne ce genre de pratique quelque peu abracadabrantesque, pourquoi les enfants, vivant au bord des fleuves, présentent-ils dans leurs cheveux des taux de mercure et de cyanure dépassant de 100 fois et plus les doses normalisées, admises en métropole? Expliquez-nous, Monsieur le Président. Ne sont-ils pas normalisés, ces petits Français-là? En dehors de ces histoires de normes qui devraient faire honneur à la rigueur hexagonale, il y a tant d'autres sujets de scandale. Les emplois fictifs ne sont pas qu'une spécialité métropolitaine. En Guyane aussi, on a de beaux cas de conjoints de cadres administratifs, européens bien sûr, généreusement payés par nos impôts au tarif expat, expatrié, pour des emplois où on ne les a jamais vus à l'œuvre, cela étant connu de tous. Les cadres administratifs fuient les structures étatiques devant le manque de moyens et la gabegie institutionnalisée à tout niveau. Ce qui, bien sûr, détériore d'autant les services de l'État et crée une concurrence hors de prix dans les structures privées qui s'installent. Et les élus trahissent leur mandat. Et parmi tous les charmes de la Guyane, le recyclage de l'argent douteux tient une bonne place. On observe un turnover record des fonds déposés dans les banques locales, ce qui est un signe caractéristique du blanchiment de l'argent sale, la drogue et la prostitution alimentant abondamment ce circuit. D'ailleurs, un autre moyen visible de l'organisation du blanchiment est la multiplicité de jolis magasins, vides de clientèle, et même de vendeurs, qui montrent quelques spécimens d'articles inutiles et sans valeur permettant de présenter une couverture apparente d'activité pour justifier des revenus miraculeux. Les eaux territoriales guyanaises, si poissonneuses, sont vidées par les flottes de navires-usines coréens et japonais. Problème auquel le président a répondu en disant que les frontières étaient trop longues et indéfendables. C'est vrai que la Guyane offre à la France la plus longue frontière. Eh oui. Mais pourtant, si on essaie de pêcher dans les autres eaux sud-américaines, aux côtes bien plus longues que la guyanaise, on se fait rapidement accoster par les polices maritimes. On n'oublie pas non plus le taux alarmant, champion du monde, des suicides d'enfants, enfants indigènes surtout, complètement oubliés, sans autre espoir que l'exil, possibilité elle-même très difficile pour qui n'a pas de famille en métropole. Et les internats confessionnels sont à la fois rares, très chers, et vraies usines à formater au modèle colonialiste et aliénant des jeunes nés en liberté. Et voilà le vif du sujet du voyage de notre président. La Guyane est soulagée de 5 tonnes d'or par an par l'orpaillage illégal et de bien plus, 2 ou 3 fois autant, par l'exploitation industrielle officielle. Ce dont aucun Guyanais ne voit pépite. Les orpailleurs clandestins étant brésiliens ou surinamiens et opérant avec des moyens énormes. Flotte de bateaux et surtout d'hélicoptères, contre lesquels le petit orpailleur guyanais, avec son tamis à main, ne peut rien, sauf à vendre aux gros orpailleurs sa récolte, sa cueillette, à un prix de famine. Et ça ne va pas s'arranger, puisque le contrat qui a justifié le voyage de Macron, le contrat de la montagne d'or, va donner à cette société minière canadienne, qui appartient en fait aux Russes, va lui donner le droit d'éventrer encore plus la forêt et de polluer encore plus les fleuves. On ne se fait aucune illusion à ce sujet sur les pratiques russes. Et Naomi Klein nous a bien raconté quelles étaient les précautions prises par les Canadiens en matière de pollution minière, voire contre-histoire d'il y a quelques mois. Pauvre Guyane, pauvre colonie du XIXe siècle, dans ce 21e dévastateur qui ose parler COP 21, 22 et bientôt 23, en ayant finalement d'autres soucis que de pressuriser la planète et de sacrifier à sa cupidité ses habitants pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre. La métropole est le prédateur officiel de la Guyane, mais les officieux sont nombreux. Le rêve des Guyanais, de 7 à 77 ans, on y vit très rarement jusque-là, c'est de partir. Et ceux qui ne pourront pas partir se verront abandonnés aux vautours de la finance, des mines et de l'aéronautique. À chaque visite gouvernementale, on compatit, on encourage, on promet et on décide un audit pour que ça change. Les résultats sont oubliés dans un tiroir s'ils ne sont pas soigneusement détruits et rien ne change. Pourtant, les Guyanais ont du courage, des compétences et même de la générosité. Eux qui n'ont rien ont trouvé le moyen de remplir les soutes d'avions pour secourir Saint-Martin après la tempête. Mais le printemps 2017 a montré que les Guyanais savaient s'organiser et que toute la population était motivée. Le changement de gouvernement a stoppé le mouvement. Mais le nouveau se trouve devant une situation inédite et sans élection en vue. Il serait prudent d'éviter une nouvelle confrontation, car les Guyanais ont avalé assez de couleuvres. Internet a tout changé dans la relation avec la métropole. Les Guyanais peuvent faire la différence entre leur sort et celui des métropolitains. Et se voyant exploités et méprisés, ils ont trouvé la recette pour stopper la machine infernale. Macron a fait des promesses prudentes. S'il les tient, peut-être que le courage, la patience, sinon l'espoir, peuvent renaître. S'il ne les tient pas, il sera responsable des suites. Parce que les moyens, il les a. Il les prend en Guyane. Alors faudrait peut-être en faire quelque chose pour les Guyanais.
Alors, mesdames et messieurs, qu'attendons-nous pour s'indigner ? Qu'attendons-nous pour nous faire vivre ces si belles vérités que l'on chanterait en liberté ? Seule l'addition de nos faiblesses feront la force de cette union. Nous sommes seuls rois de nos destins, et si la France est notre royaume, nous reprendrons ce vieux château. J'ai fait le rêve d'une autre France, qui serait le berceau de la tolérance. Comme un flambeau qu'on brandirait, une terre nouvelle nourrie de chance. J'ai fait le rêve d'une autre France. Alors bien sûr, je comprends bien que certains cèdent à la panique. À force de crier au loup à travers ce tube cathodique, j'entends ces chants pas catholiques. Rendons utile toute cette colère pour qu'elle transforme nos quotidiens. Et que l'on s'aime, que l'on s'haïsse, nous vivrons tous le même chemin que d'autres appellent le 18 juin. J'ai fait le rêve d'une autre France, qui serait le berceau de la tolérance. Comme un flambeau qu'on brandirait, une terre nouvelle nourrie de chance. J'ai fait le rêve d'une autre France. Bien d'autres rêves que les cauchemars qu'on nous propose pour cette France emprisonnée dans ses mouvements par son arthrose et qui fracture le grand changement en petits pas anecdotiques qui font le bonheur des fanatiques de cette malade république. Je lance ces mots à cœur perdu comme une goutte dans l'océan, en espérant qu'Avaz m'entende. Nous savons tous que ce pays peut être de loin la plus belle rose, mais asséchée par nos tourments, elle finira par se faner. J'ai fait le rêve d'une autre France, qui serait le berceau de la tolérance. Comme un flambeau qu'on brandirait, une terre nouvelle nourrie de chance. J'ai fait le rêve d'une autre France.
Maintenant, je vais vous lire ce que j'ai prélevé, détourné de Mediapart, comme souvent, Mediapart qui se promène aussi beaucoup dans d'autres journaux, dans d'autres associations et qui fait de belles cueillettes. Alors d'abord, en Guyane, le projet de mine d'or géante, dit de la montagne d'or, n'échappera pas à un débat public. Cette décision est une première victoire pour les opposants, qui soulignent que le projet va entraîner la déforestation, des émissions de CO2 et de fortes pollutions. Ce qui occupe le cœur des débats en Guyane actuellement est très peu discuté en métropole. Il s'agit d'un projet de mégamine d'or à échelle industrielle et à ciel ouvert, la montagne d'or. Ce projet titanesque, promu par des entreprises étrangères, se situe entre deux réserves biologiques intégrales, en pleine forêt amazonienne. Cette mine est la caricature d'un projet du passé. Si elle voyait le jour, elle serait la plus grande mine d'or jamais réalisée en France. Elle met en danger la ressource en eau de l'ensemble du bassin de Guyane. Elle nécessite une déforestation et une matrice énergétique génératrice de CO2. Elle engendrerait des pollutions inévitables, au premier rang desquelles la cyanuration. Cyanure. La mine ferait courir des risques à la population, avec le stockage des déchets et de potentielles ruptures de digues qui, comme on l'a vu récemment au Brésil, font tant de dégâts. Alors maintenant, je vais vous demander un petit peu d'indulgence, comme souvent, parce que la carte que j'ai sortie, avec mon imprimante capricieuse qui prend pas les couleurs, eh bien, elle est un peu complexe. Mais j'ai repris les notes comme j'ai pu. Il faut que je vous lise ça. Alors, la Guyane. Il y a 80% de biodiversité, 1700 espèces d'arbres, 710 espèces d'oiseaux, 400 espèces de poissons d'eau douce et 197 espèces de mammifères terrestres. Un vrai paradis terrestre. Alors, si la montagne d'or voit le jour, il y aura 1100 allers-retours par jour de camions géants de 25 mètres cubes et 70 tonnes par trajet. Tout ça entre une réserve bio de 61 000 hectares, laquelle va trinquer au maxi. Cette mine, creusant une fosse, grande comme 32 stades de France, profonde de 430 mètres, avec une surface équivalente au centre-ville de Cayenne, on pourrait dire le centre-ville de Toulouse, hein, c'est à peu près, en surface, c'est à peu près comparable. Alors, faut pas croire que ça va rapporter des sous aux Guyanais. La taxe minière sur les résultats, elle est de 2%. Alors, tous les arnaqueurs d'Afrique et d'Asie et d'Amérique du Sud réunis sont battus à plate couture. Ça, c'est la trouvaille, c'est la victoire de Poutine. Mais il y a en plus une demande de défiscalisation et d'exonération en cours, parce que 2%, ça fait quand même des sous. Alors, au niveau énergétique, cette horreur va demander 20 mégawatts, ce qui représente 100% de la consommation de Cayenne. L'empreinte carbone sera de 140 000 tonnes de CO2, avec plus de 60% de gaz à effet de serre. Ça va demander une ligne THT de 60 millions d'euros à charge du contribuable, et ça va occasionner 50 000 tonnes par an de produits chimiques, 1 200 tonnes de cyanure, 6 600 tonnes de chaux, 100 tonnes de nitrate de plomb, 84 tonnes de soude, 60 tonnes de sulfate de cuivre et 20 tonnes d'acide sulfurique. Alors, je n'ai pas le chiffrage du mercure, mais le mercure, c'est la base du traitement des minerais aurifères. Donc, on n'y échappera pas. Alors, les risques. Les risques, c'est la pollution des rivières et des nappes phréatiques par le cyanure, le mercure, le plomb, le cadmium et l'arsenic. On ne m'a pas donné les chiffres, on n'a pas transmis les chiffres de cadmium et d'arsenic, mais ils y sont. Hein. Et il faut se souvenir donc des risques de rupture de digues, comme on disait tout à l'heure, comme ce qui s'est passé au Brésil en 2015. Alors, il y aura par jour 12 500 tonnes de traitement de minerais, ce qui donnera 8 tonnes d'or par an. Au niveau des emplois, il y aura 800 emplois pour la construction de l'infrastructure, la construction de la mine, et ensuite 500 emplois pour l'exploitation. Maintenant, il ne faut pas rêver, il faut se souvenir de la Nouvelle-Calédonie, dont on commence à reparler, qui a vu les mines de nickel occupant 95% de populations importées. Hein? Donc, faut pas penser que la mine d'or va régler le problème du chômage en Guyane, ce n'est pas vrai. Ce modèle d'exploitation des ressources naturelles non renouvelables, toujours fondées sur l'excès, prétend répondre à nos besoins prétendument croissants de matières premières, en l'occurrence, nos besoins en or. Mais s'agit-il vraiment d'une nécessité ou plutôt de la soif d'accumulation des richesses qui règnent dans notre société ? Il s'est créé un collectif hors de question, hors OR, bien sûr. Le collectif, hors de question, s'oppose fortement au projet Montagne d'Or. Sa radicalité, décriée par certains, est pourtant d'une force essentielle face à l'ampleur des risques qui pèsent sur le territoire guyanais. La Guyane est l'une des réserves de biodiversité les plus importantes au monde et l'urgence du changement climatique impose des résistances radicales au projet climaticide. Un nouveau territoire sacrifié à l'extractivisme et au mirage de la mine propre. Une première victoire a été remportée mardi 19 septembre. La Commission nationale du débat public a annoncé sa décision. Le projet Montagne d'Or fera l'objet d'un débat public. Il se déroulera en Guyane et sera animé par une commission particulière qu'elle désignera à cette fin. Un projet d'une telle ampleur ne peut pas être décidé à huis clos. Il ne peut pas non plus être présenté au public par les seuls soins de ses promoteurs. Il y a intérêt à veiller au grain, là. Les arguments favorables et contraires à Montagne d'Or doivent être exposés à la population par une commission neutre, évitant ainsi tout conflit d'intérêts. Alors que l'État français n'a de cesse de rappeler l'importance de la cohérence des politiques, surtout en matière de développement durable et de lutte contre le dérèglement climatique, la situation en Guyane relève d'une absurdité criante. Les emplois potentiellement générés par la Montagne d'Or semblent passer avant le droit à un environnement sain et n'apportent qu'une contribution minime à l'autonomie économique dont la population locale a tant besoin. Les emplois générés par la Montagne d'Or sont précaires, puisque fondés sur l'exploitation d'une ressource limitée et dépendant du cours international de l'or. Si celui-ci tombe, le projet ne sera plus rentable et les employés devront en payer le prix. Comme nous le rappelons sans cesse, les avantages issus des activités extractives sont dérisoires face aux dégâts qui en découlent. La Guyane peut et doit être le laboratoire français des emplois pour la biodiversité et non un nouveau territoire sacrifié à l'extractivisme et au mirage de la mine propre. Les événements dévastateurs qui se multiplient devraient amener nos sociétés à transformer radicalement leur mode de pensée pour enrayer le changement climatique avant qu'il ne mette à mal l'ensemble de nos modes de vie. Et c'était un communiqué de France Liberté. Le collectif Hors de question remettra le prix Daniel Mitterrand le 18 novembre 2017 à Paris, à France Liberté. Maintenant, on va passer aux commentaires qui sont rédigés dans les pages spéciales de Mediapart, aux commentaires des lecteurs, des abonnés de Mediapart. Alors, on va retrouver des gens dont je vous ai déjà lu les remarques, qui sont quelquefois un peu folkloriques, souvent assez humoristiques, mais toujours très sensées et pointues. Alors, quelqu'un qui signe Miss Me. On peut sortir de la dépendance au monde politique métropolitain, récupérer les postes de l'administration publique, créer une monnaie locale adossée à une banque guyanaise, régler ses échéances financières à la métropole avec les richesses guyanaises, fruits, bois, or, molécules pharmaceutiques, tourisme, que la métropole devra accepter telle qu'elle, produit et ramener à ses frais. Inutiles ces multinationales financiarisées, mondialisées, prédatrices. Indépendance dans l'intelligence. Et c'est signé donc Miss Me. Et puis on retrouve Charles Hubert. Charles Hubert de Girondiac, dont je vous ai lu souvent les propos très à propos. La grande faiblesse de l'opposition au macronisme en Guyane est qu'elle partage avec Macron le culte du veau d'or. Elle ne conteste pas l'extraction ni l'exploitation criminelle des ressources, mais la répartition du butin. C'est un nouveau désastre qui s'annonce en Guyane. Alors là, Charles Hubert nous donne quelques adresses, quelques liens que je vous remettrai sur la page de l'émission. Bon, blogmediapart.fr/Adrien Guillot, hein, G-U-I-2-L-E-A-U, blog du 29 octobre 2017, l'économie guyanaise. Je vous remettrai tout ça comme il faut. S'il faut des soins, des écoles, un habitat sain, est-ce possible en Guyane de vivre sans insectes, serpents et sans détruire la nature? Vouloir croire qu'il ne s'agit que de s'approprier l'or, le pétrole et le biotope relève du madurisme. Nous attendons les protestations de Maduro à l'ONU sur la façon dont Macron traite la Guyane et les Guyanais. On n'entend d'ailleurs plus les narcos stupéfiants sur le Venezuela. Alors les narcos, c'est L'apostrophe. Et narco, trait d'union stupéfiant sur le Venezuela. Mais comme Fuchs a démontré à Macron que la quasi-totalité du crétin en diesel UMPS FNLRM s'en fout, et un lien vers le monde diplomatique que l'on va retrouver tout à l'heure, Agnès Guinguenet. Bientôt, avec la réalisation du projet minier de la Montagne d'Or, il n'y aura plus de problèmes en Guyane française. Voir l'usine nouvelle, la France assise sur une mine d'or. 2 grammes d'or pour 1 tonne de déchets. Franchement, le fleuve Pactole était plus écologiste. Que dit M. Nicolas Hulot? Il n'a pas été convié en Guyane. C'est M. Lecornu, pas vraiment de gauche, qui l'a représenté en compagnie du luxembourgeois Juncker. Juste une remarque d'un monsieur qui signe YG75. Une remarque: dans ce monde médiatisé, l'image s'impose et est en plus impactante, bien plus que les déclarations fussent-elles d'un jupitérien. Bref, pour ma part, en tant que métropolitain, il restera de cette visite la manifestation devant la préfecture. À ma droite, les forces de l'ordre. Que des blancs, impressionnants par leur musculature et par leur accoutrement armement. À ma gauche, des manifestants, de couleur, frêles et démunis, mais en colère et en nombre. Il reste de cette image une forte impression de colonisation. Laissons aux autochtones le soin de s'administrer, formons et n'importons pas de la métropole nos fonctionnaires. Je sais, comme dirait la mère Michel, nous avons, pour le maintien de l'ordre, en France, un savoir-faire français reconnu dans le monde entier. Et voici les conclusions de Jamo. La marche pacifique de revendication qui a eu lieu à Cayenne jeudi 26 octobre, mais boudée par le souverain, ce qui a fait basculer la visite présidentielle dans l'amertume amérindienne. Cette marche faisait écho à l'immense marche unanimiste historique du 28 mars dernier, dont l'importance numérique avait créé un rapport de force immédiat en faveur des revendications sociales du territoire, amenant les puissances tutélaires nationales et européennes à reconnaître publiquement leur manquement historique dans l'exigence d'équité républicaine. Et l'État a signé, en pleine campagne présidentielle, sous la pression de la rue, les accords de Guyane, avec les élus et le collectif pour la Guyane décollée. Accord qui comprenait un premier volet fléché de 1,1 milliard d'euros de dépenses immédiates en faveur notamment des infrastructures scolaires, sanitaires et routières, accompagné d'un second volet de 2,2 milliards d'euros destinés dans un deuxième temps à panser le retard de développement. Alors pourquoi ce sentiment de rendez-vous manqué? Parce que ce déplacement présidentiel concomitant à une grand-messe des régions ultra-périphériques, avec présence historique du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, n'a pas été préparé sérieusement par les acteurs locaux élus du collectif pour la Guyane décollée, des élus et de la société civile. Ce qui a permis à ces deux exécutifs, responsables historiques du retard structurel, d'acter la non-effectivité du second volet des accords de Guyane et de renvoyer aux assises de l'outre-mer les problèmes de sous-développement endémique. Avec en prime des rodomontades médiatiques habituelles de l'actuel locataire de l'Élysée, snobant une société civile ultramarine en quête de cohésion, donnant des gages budgétaires à la droite affairiste ou identitaire et flattant l'opinion publique en désignant le bouc émissaire, c'est-à-dire l'immigré fuyant la misère sociale. Que cessent les postures narcissiques pour affronter les tensions sociales qui s'accroissent dangereusement.